Oui, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui de la question de savoir s'il est encore permis de parler de l'excellence de la foi chrétienne. En effet, la cohabitation de plusieurs traditions religieuses sur notre sol a conduit des idéologues à mettre toutes les religions sur un pied d'égalité afin de ne pas heurter les susceptibilités des différents croyants. Mais est-ce rendre service à la vérité que de comprendre le christianisme comme une religion comme les autres? La crainte d'être accusé de discrimination paralyse beaucoup de chrétiens en les empêchant de soutenir la singularité de leur religion. Aussi, pour complaire au magistère du politiquement correct, certains se contentent-ils de soutenir l'égale valeur de toutes les traditions. Cette flagornerie les dispense d'expliciter la différence chrétienne, croyant par là faire œuvre pie de tolérance en sacrifiant l'excellence du Christ sur l'autel du vivre ensemble. Mais à la longue, ce relativisme est mortifère. En effet, pourquoi continuer à aller à la messe si la foi au Christ n'amène aucun plus par rapport aux autres religions? Dans ce contexte, il redevient urgent, dans la pastorale de l'Église, d'expliciter ce qui constitue la singularité du christianisme, son excellence. Car ce n'est pas faire preuve de complexe de supériorité que de souligner la spécificité chrétienne, puisque le mérite en revient à Dieu et non à nous. Par exemple, quelle religion promet à ses disciples de devenir participants de la nature divine, ainsi que le dit Pierre dans sa seconde épître, c'est-à-dire de devenir semblable à Dieu, ainsi que le dit Jean dans sa première lettre? Existe-t-il l'équivalent d'une telle promesse dans une autre religion? N'ayons pas peur des gros yeux du conformisme et de la bien-pensance qui ne sont rien en comparaison de ce que la révélation nous fait espérer. Car dans ce contexte de relativisme, le chrétien est sommé de se contenter des valeurs évangéliques en guise de passe-droit. Les derniers des Mohicans pratiquants du dimanche sont invités à mettre leur foi en sourdine. La doxa, allergique à toute référence à une transcendance, espère bien, avec cet aplatissement idéologique, arraser la différence chrétienne et faire rentrer les disciples récalcitrants dans les rangs, comme si la foi se réduisait aux valeurs évangéliques, entre guillemets, comme s'il était possible de vivre en chrétien sans le secours de la grâce. En fait, derrière le paravent de ces valeurs évangéliques se dissimule un avatar du pélagianisme, c'est-à-dire de la tentation récurrente d'être disciple de Jésus-Christ par nos propres forces et par la pratique de nos seules vertus. Dans ce cas, Jésus n'est plus sauveur, mais un simple modèle à suivre. L'accent mis sur les valeurs évangéliques, entre guillemets, trahit en fait un moralisme présomptueux. En voulant faire l'impasse sur la singularité chrétienne, afin de ne pas froisser le pluralisme religieux, on aboutit en fait à culpabiliser les chrétiens qui restent persuadés que seul le Christ et l'Esprit-Saint sont en mesure de changer leur cœur en profondeur. Bien sûr, derrière ces accusations des chrétiens fidèles à l'enseignement traditionnel de l'Église, le prince des ténèbres se tient en embuscade. Le malin, le diable, jaloux des hommes et envieux des promesses dont ils sont l'objet de la part de Dieu, est trop heureux de voir la foi chrétienne réduite à une morale manichéenne, capable de départager les disciples du Christ entre les chrétiens soi-disant ouverts, c'est-à-dire ceux qui réduisent le christianisme aux valeurs évangéliques, et les chrétiens soi-disant fermés, ceux qui attendent tout de la grâce divine. Chrétiens soi-disant fermés, entre guillemets, bien sûr. Mais non, telle n'est pas la réalité de la foi chrétienne. Celle-ci nous promet d'entrer en communion avec Dieu par le moyen de l'esprit. La foi chrétienne est une question de vie surnaturelle et non pas de valeur.